Nous allons continuer cet après-midi et nous avons une petite. Si quelqu'un a des précisions à apporter, comme on avait fait l'après-midi, des questions, des précisions ou des choses que le Saint-Esprit, grâce à son horizon pauvre, simple, il a fait découvrir pour la communication. Voilà, c'est bien qui est. Voilà, puisqu'on cherche ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles, ou qui sont faciles, ou qui seraient. Je vais l'obliger. Je vais mettre Francesco ici. Oui. Il va nous dire quelque chose. Il va nous dire quelque chose qu'il a. Hein? Ça t'ennuie pas?
Un petit témoignage de prémoniaque.
Oui, ça t'ennuie pas? Ça t'ennuie pas?
On va essayer. Je vais essayer.
Tu vas essayer?
On va essayer.
L'amour. Viens ici, là, pour te voir. Viens ici.
D'abord, si tu fais des conférences, il a testé la fête d'abord, parce que je peux bien. Moi, je peux essayer de faire un petit témoignage de ce que j'ai eu à ma conversion à Paray le Monial, c'est-à-dire vous raconter un peu l'histoire de l'enfant blessé qui s'est coupé de Dieu, puis qui 35 ans après retrouve le Seigneur. Voir la différence du garçon qui marchait sans Dieu et de la société qui marche sans Dieu, quoi. C'est pareil, une société ou une personne, elle fait les mêmes erreurs. Donc, depuis que j'ai trouvé le Seigneur, c'est quand même un peu plus facile pour moi. C'est moins dur. Je pourrais vous témoigner ce qui m'est arrivé, quoi. Comme ça, ça peut faire avancer certaines personnes. C'est pour les débutants. On est tous débutants. Hein. Ce qui compte, c'est d'arriver pour savoir si on a fait des progrès, c'est à la fin. Donc, moi, je fais de la prière gestuée, puis à midi, on se présente tous. Et il y en a qui commencent à raconter leur vie, et ça dure trop longtemps, les présentations. Alors moi, j'avais trouvé le truc pour me présenter en une minute et demie. Alors, je peux vous faire ça, déjà, je peux me présenter, et puis si c'est pas bien, ben, on arrête là. Hein? Ok.
Allez, vas-y.
Alors, voilà. Alors, moi, je suis le petit Francesco, le pas costaud. Je suis né en Sicile, dans une famille chrétienne. Après-guerre, on est arrivé en France, j'avais 1 an. J'étais enfant de cœur. Et un jour, j'ai eu une blessure, la blessure à 7 ans. Là, je me prends la décision de croire ou pas croire. Le curé a eu les mains un peu qui ont dérapé. J'ai dit, ben, s'il m'a fait ça, c'est que le bon Dieu, il n'existe pas. Et c'était pas trop grave, mais moi, je me suis coupé de Dieu. Où c'était grave, c'est que l'enfant de 7 ans décide de se couper de Dieu. Et j'ai fonctionné avec les valeurs du monde, quoi, sans le bon Dieu. Hein. J'écoutais mes instincts, j'écoutais pas ma mère qui était pieuse et chrétienne. J'ai eu 3 privilèges d'être né dans une famille chrétienne quand même. Ma mère priait beaucoup. J'ai le deuxième privilège, c'est que je suis né dans une famille pauvre, donc on est obligé de travailler. Qui c'est qui est jardinier là? Qui c'est qui est jardinier? Tu peux faire un carré de pommes de terre ou planter des carottes et tout, c'est pour récolter 3 carottes, c'est du boulot, quoi. C'est là, ça vous rend humble, le travail manuel. Donc c'est un privilège d'être né pauvre parce qu'on est obligé de travailler avec ses mains. J'avais été un peu au lycée, mais quand ça allait pas, je me remettais au travail manuel tout le temps et ça me rééquilibrait, ça m'évitait d'être trop dans ma tête. Voilà. Donc, deuxième privilège, donc c'est d'être né pauvre. Et troisième privilège, c'est d'être le moins costaud de la famille de 8 enfants. Parce qu'après-guerre, ma mère n'avait pas beaucoup à manger. Mon père était parti en France pour trouver du boulot. Et ils avaient fait des propagandes en Sicile, là-bas, pour venir reconstruire la France. Donc, ils couchaient dans l'atelier où ils travaillaient. Et ma mère, elle lui avait laissé une chèvre, 2 poules, et puis c'est tout, quoi. Elle avait rien à manger, moi j'en ai un peu les séquelles. Et puis, comme j'étais le 7e, il y en a eu avant des très costauds, avant moi, donc ils avaient pris toutes ses forces. Donc, mais c'est un privilège d'être n'est pas costaud, parce que j'ai craqué avant les autres, et quand je me suis coupé de Dieu à 7 ans, donc 40 ans après j'ai craqué, 36 ans après j'ai craqué, et je suis revenu à Dieu. Comme mes frères, ils ont fait leur trajectoire sans le bon Dieu, quoi. Ils sont, c'est des costauds, c'est des balèzes, quoi. Et, mais quand même, sur le tard, je vois que si on n'a pas Dieu dans sa vie, ben on tombe dans des dépendances, des fois. Et ben, l'homme, des fois, c'est le pastis. L'autre, ça va être, ça va être le jeu, ça va être les femmes. En plus de notre mariage va bien, mais des fois, on fait des petits écarts, des trucs. Sans Dieu, on tombe dans la dépendance. Alors moi, j'ai la chance d'avoir été pas costaud, donc je suis tombé dans la bonne dépendance. Je suis un grand dépendant, je suis dépendant de Jésus. Et c'est une dépendance qui coûte pas cher, parce qu'on peut en prendre trop, tant qu'on veut, et c'est gratuit, quoi. Donc je continue mon histoire, ça vous va? Ah ben oui, on va y arriver.
La révélation du cœur.
Donc, je me coupe de Dieu à 7 ans, je reviens... D'ailleurs, quand j'ai été blessé, la première chose que j'ai fait, comme le père a dit ce matin, là, on fait un péché derrière. Quand j'avais été piquer des bonbons à l'épicerie pour me venger de ce que m'avait fait le curé, et j'avais piqué un fond dans la quête. C'est peut-être les seuls vols que j'ai dû faire dans ma vie. Mais après, si vous voulez, bon, bah, je marche sans Dieu, mais il y a quand même la marque de Jésus. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a cette marque qui dit qu'il faut être droit dans la vie. Et dans le business, on n'a jamais pu m'avoir parce que j'ai marché toujours très droit. Mais je suis arrivé... 36 ans après, apparaît complètement cassé. Cassé, comme j'étais fragile, sans Dieu, j'ai eu un peu le travail. J'ai pas construit comme il faut au niveau du cœur, j'étais un pauvre, j'ai pas su aimer, j'avais peur de m'engager. Les femmes m'aimaient, moi, au dernier moment, je voulais pas me marier, je partais. Parce que c'était la blessure, ça, c'était la marque de la blessure. Et donc, j'avais une sœur aînée handicapée, mais ma mère, elle disait, va l'aider, tu verras, le bon Dieu, il t'aidera. Et chaque fois, elle est consacrée. Chaque fois que j'allais l'aider, j'avais une récompense. J'ai mis autre chose, c'est pas possible. Et un jour, elle allait à Paris, des médecins de Lyon qui l'amenaient à Paris. Et elle a réussi à m'entraîner. Je dis, tiens, je vais voir si elle n'a pas été dans une secte à Paray-le-Monial. Et elle m'a entraîné là-bas. Elle m'a mis tout un tas de jeunes sur le dos qui se sont occupés de moi. Ils ont fait des groupes de partage, là. Et ils ont prié sur moi. Ils prient sur moi. Renaissance, le vieil homme qui meurt, l'homme qui renaît la vie spirituelle. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris. Deux jours après, il reprit sur moi. Ah, cette fois, je reçois un coup de chaleur, mais quelque chose qui me vient dessus. Et sans rien y connaître, je leur parle de la charité, du pardon, de la miséricorde, de tout, comme si j'avais 30 ans de conversion. Et puis je rentre à Lyon chez moi, tout neuf, tout ressuscité, même physiquement, j'étais bien. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive là? Renaissance, mais je suis rené pour de vrai, je dis, je vais acheter une grosse Bible, et je dis, je vais voir ce que ça veut dire ce texte, quoi. J'ouvre au hasard, renaissance au corps. Je dis, mais c'est pas possible, il y a que ça. Alors, avec mes potes qui m'avaient amené à moi, on avait fait un groupe de prière. Je dis, mais il y a que ce texte dans ce bouquin, là. Et donc, on avait fait un groupe de prière et tout, puis j'ai commencé à cheminer, quoi. Mais les anciennes copines, elles te rappellent, elles te disent « Ouais, tu reviens un dernier coup, juste la dernière fois, puis après on pourra se séparer et tout. » Puis on fait l'erreur de repiquer au truc, et tu replonges plus bas qu'avant, quoi. Tu retournes dans ton péché, donc tu retournes encore plus bas qu'avant. Donc je décide de couper cette relation que j'avais qui n'était pas bonne. Et puis le groupe de prière, et puis la famille Saint-Joseph à Lyon. Après ce groupe de prière, on a été chez Berlin dans la famille Saint-Joseph à Lyon. Et nous enseigner un petit peu, et on a commencé à cheminer, donc petit à petit, j'ai commencé à suivre le Seigneur, quoi. Puis au début, on a des tas de grâces, hein, c'est lui qui nous porte, je ne vais pas tout raconter, parce que ça serait trop long, mais pour dire, j'ai eu des beaux cadeaux. Hein. Moi, je disais, je croirais que si je le vois. Et lui, il m'a eu, puisque trois fois de suite, renaissance. Je dis, si tu parles, je dis à la Bible, parce que je vais être charismatique, qui ouvrait leur vie. Je dis au Seigneur, si tu parles, t'as qu'à me donner un texte pour telle famille. C'était des amis à nous qui étaient belle famille, belle maison, beaux enfants. Et j'ouvre ma Bible, je tombe sur le texte. Ne vous fiez pas aux apparences. Les gens qui ont les belles maisons, qui ont des belles familles, s'ils n'ont pas Dieu, ils sont sur la pente glissante, ils vont se casser la figure, quoi. Et 6 mois après, c'est vrai, cette famille, le gamin, c'était le meilleur footballeur du Rhône, il commençait à se droguer. Je savais tout par ma copine qui était. Par une amie, qui c'était nos meilleurs amis, donc on savait. Mais le gars, il ne me disait pas tout, quoi. Et donc son gamin avait commencé à se droguer, enfin il y a eu des problèmes, et ils ont sorti leur gamin du truc, mais ça a été très difficile. Je dis, mais la Bible, ça parle vraiment. Et moi, un an après, je dis, ben, je vais remercier le bon Dieu de ma conversion. Donc, pour être près du bon Dieu, je dis, je vais carrément aller habiter à Paray-le-Monial. Mon architecte me parlait des bâtiments rénovés à Charolles, où Marguerite Marie a fait sa première communion. Là. Et je lui dis, je vois un vieux bâtiment, je dis, celui-là, il est beau. Parce qu'à l'époque, je regardais bien les bâtiments. Hein. Je connaissais pas la parabole, vous aurez beau faire reverdir des déserts, restaurer des ruines, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien construit. Hein, Alors je dis, ben, je vais restaurer, je tombe amoureux de l'immeuble, je dis, je vais restaurer ce bâtiment, là, vous allez voir, je vais faire quelque chose de beau. Je fais ça pour le Seigneur. Mais j'avais tout faux, bon Dieu, ne voulait pas que je fasse tout ça. Mais enfin, c'était mon chemin de conversion, mon chemin de croix. Un an après, donc j'achète ces bâtiments, comme ça je dis, je serai à côté de Paray-le-Monial parce que j'étais gourmand, je commençais à aimer les enseignements qui parlaient un peu du cœur de Jésus et tout, j'aimais bien. Et je dis, comme ça je serai à Paray, je vais rattraper le retard que j'ai pris, parce que j'ai vu que j'avais eu tout faux pour au niveau du cœur, j'ai dit, maintenant je vais rattraper le retard. Et j'ai dit, je vais faire du bon boulot, je fais un geste gratuit, je voulais plus gagner d'argent, même j'avais de l'argent, j'en avais, et je retape ça. Et je vois qu'il y a des jalousies au niveau de la ville. Et au groupe de prière, je dis, mais vendredi saint, on va me crucifier, on va me mettre un contrôle fiscal. Je voyais qu'il y avait des jalousies entre l'architecte et le maire, mais je ne chantais pas bien. Il dit, vendredi saint, je suis mort, je vais avoir un contrôle fiscal. Et la lettre arrive, datée du 17 avril 92, contrôle fiscal. Alors moi, dans ma tête, je dis, vendredi saint, crucifié. J'avais dit au groupe de prière, vendredi saint, je vais être mort, je vais avoir un contrôle fiscal. Et il arrive le vendredi saint, 17 avril 92. Moi, dans ma tête, je croyais que c'était une punition. Alors, je prends la tête, je tape contre les murs. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pour une fois, je fais un geste gratuit. On me récompense comme ça, je comprends plus. Et donc, la lettre arrive, l'inspectrice, le contrôle commence. J'avais pas été dénoncé, j'avais pas volé, j'avais pas triché, puisque je savais que dans ce domaine-là, il ne fallait pas trop jouer, quoi. Et donc, elle ne trouvait pas, elle devenait folle. Et enfin, elle m'invente des tas d'histoires. Je dis à la Bible, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Parce qu'elle m'avait parlé l'année d'avant, je lui dis, quatre fois, je lui dis, elle va me parler encore, je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle me dit, quand on touche un petit, c'est Dieu qui prend sa défense. Je dis, que ça veut dire, ça, je ne comprends pas. Après, j'ai ma lettre de contrôle fiscal, je dis, mais ouais, mais elle est en train de m'assassiner, elle m'a mis à contrôle, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ouvre encore, elle dit, tu es à la croix. Tu auras une récompense. Quelle récompense je vais avoir? Et 9 mois après, je suis convoqué au Sénat. On m'avait traité d'incompétent entre temps, on m'avait mis les brigades et tout. 9 mois après, je suis convoqué au Sénat à Paris. Le jour de mon anniversaire, on me donne le premier prix national pour le travail que j'avais fait, pour le travail social et le travail architectural. Le jour de mon anniversaire, j'étais premier prix pour les privés et l'autre prix était donné au ministre du budget, lui pour les HLM et moi pour les privés. Mais où c'était plus fort, ils avaient tellement fait des lois contre le social, les socialistes, que j'avais plus de sous pour payer mes traites de janvier 93. Et ils avaient aussi les gens touchaient l'APL, mais c'est eux qui le mangeaient. Et j'avais dit au ministre, quand j'ai eu le prix, je vais avoir des ennuis, j'ai dit, parce que les gens ils touchent l'APL, ils touchent le RMI, et ils ne payent pas. Donc l'année prochaine, je suis en faillite, je dis au ministre. Et 3 mois après, il était ministre du budget des affaires sociales, M. Jacques Barrault. Il a versé directement l'APL au propriétaire. Ça fait que je n'ai pas fait faillite. Mais il me manquait quand même 35 000 francs pour payer ma traite de janvier 93. Et le jour où il me remet le prix, et il me donne 35 000 juste pour payer ma traite. Alors je dis au Seigneur, mais tu peux pas me donner un peu plus? Et pendant 2 ans, j'étais sur la corde raide, pas un centime de plus. Le Seigneur, et je dis, je vais peut-être être en faillite bientôt, mais c'est pas grave. J'avais des joies intérieures que j'avais jamais eues, je comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu, c'était le passage obligé de la croix. N'ayez pas peur des croix. C'était le passage obligé de la croix. Là, j'ai dit au Seigneur, ben, s'ils veulent tout, je leur donne tout, je m'en fous, j'en ai plus rien à ce coup. Mais j'avais jamais. Il rentrait tant d'argent, il en sortait un peu plus, j'avais rien pour. Mes locataires avaient plus que moi, parce qu'ils touchaient le RMI, la PL, ils vendaient du shit, ils avaient plus que moi. J'avais fait 70 logements sociaux. Mais c'est pas. Mais j'avais des joies que j'avais jamais connues dans ma vie. Et je dis, ben, qu'ils prennent tout, moi je m'en fous, j'ai le Seigneur et ça m'a suffi. Et là, j'ai eu la conversion du cœur profond. J'avais peur de la croix, j'avais tapé la tête contre les murs quand j'ai reçu ma lettre. Mais là, j'ai vu que le vieil homme qui était en moi, ce jour-là, il est mort. 2 ans sans argent, j'ai dit, tu vois, c'est pas l'argent qui t'a rendu, t'es heureux et t'as plus de fric. Et ce jour-là, j'ai vécu la croix. C'est-à-dire que j'ai quitté l'habit du vieil homme qui marchait sans Dieu au cœur de pierre, j'ai revêtu l'habit nouveau et m'a mis. Donc j'ai quitté l'habit du vieil homme au cœur de pierre, j'ai revêtu l'habit nouveau, il m'a mis un cœur nouveau, et j'ai trouvé l'amour, la paix, la joie. Et j'ai commencé à danser, même à sa danse. J'ai recommencé à danser à ce moment-là, malgré que j'avais pas de sous, que j'avais plus rien. J'ai trouvé des autres richesses. J'étais un vrai riche, mais des vraies richesses. Et après, comme j'ai pas fait faillite, petit à petit, bon Dieu m'a tout redonné. Et puis, à un moment, j'ai vu que j'avançais plus. J'ai dit, je fais quoi là maintenant? J'avance plus, quoi. Je fais du sur place, ça marche plus, quoi. Des fois, les charismatiques, ils donnent des textes. Mais à un moment, ils disent, t'es dans la barque, mais il va se passer, ne t'inquiète pas, il va venir te chercher le Seigneur, tu vas voir, il va te... Et c'est là que j'ai rencontré le Père Patrick. Ça m'a reboosté de nouveau pour avancer de nouveau.
Et puis, raconte le désert.
Hein?
Mime le désert.
Ah ouais, ça c'est la pierre
destinée. C'est ça qui était bien.
Ah ouais. oui, disons que j'ai cheminé, pour cheminer, pour avancer avec le Seigneur, c'est surtout par la danse, par la prière gestuée. Un jour, on faisait en 2000, on faisait un atelier sur, c'est avant Pâques, on faisait Jésus qui partait au désert, quoi. Là, on lit l'évangile du jour, on va à la messe après, mais on lit l'évangile du jour souvent, c'est sur l'évangile du jour qu'on danse. Et ce jour-là, c'était avant Pâques, on faisait Jésus qui partait au désert. Et moi, ce jour-là, je n'étais pas trop mal, j'avais envie de danser. Je dis, on lit l'évangile de Jésus qui part au désert, qui reçoit la manne et tout. Et elle met une musique douce et dit, maintenant, vous partez au désert. Alors moi, je me lève, je pars au désert, j'avais une envie de danser. J'étais là, bon, Jésus, il vient. Puis je voyais que personne dansait. Je dis, personne danse. Alors je ne cherche pas à comprendre. Je dis, Seigneur, viens sur mes frères, envoie ta manne sur eux et tout. Et moi, je pars à danser. D'un seul coup, plus de douleur, plus rien. Bon, je suis carrément désert. Je vois les dunes. Ah, je dis, je vais choisir la plus haute, comme ça je serai près du Seigneur. Et puis je demanderai pour mes frères qu'ils viennent les aider. Puis d'un seul coup, je suis traversé comme ça. Comme un tube, je suis un canal. Il se sert, la ouate blanche, la manne, elle traverse, c'est ni de l'électricité, ni de l'eau. Ça me traverse comme un tube et ça vient sur mes frères, ça inonde toute la salle. Je vois la salle pleine de ouate blanche. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Et puis je sais pas combien de temps ça a duré. Je sais pas. C'est 6 mois après, j'ai dit, j'en ai parlé aux autres. J'ai dit, mais combien de temps ça a duré? Elle me dit, oh, mais je sais pas, t'es resté 10 minutes comme ça. On aurait dit, tu portais la terre entière, tu transpirais. Et voilà, donc c'est 6 mois après seulement que j'en ai parlé, mais j'étais bien après, j'ai eu des grâces toute l'année. Mais c'est 6 mois après, j'ai parlé de ça, mais dit, mais tu sais, les autres, pourquoi ils dansaient pas? Parce que eux, ils étaient réellement au désert. Si tu veux, eux, ils ne pouvaient même pas lever le pied pour danser parce qu'ils avaient, ils étaient coupés de Dieu trop longtemps. Il y avait des revenantes. Il y avait deux revenantes. Une fois qu'on a fini de danser, elles ont eu les pleurs. Et le soir, elles sont reparties, elles marchaient comme ça. Dans l'or, elles ont eu les pleurs et la joie. C'était des revenantes. Il y avait deux, trois filles, un groupe de trois filles qui revenaient à Dieu, qui s'étaient coupées de Dieu depuis 20 ans et qui étaient revenues ce jour-là et qui avaient reçu vraiment des grâces. Elles sont parties en disant, mais qu'est-ce qui nous arrive? On n'a rien vu. Et elles marchaient comme ça, je peux vous dire. Moi, je l'ai eu, ça aussi. Au début, on s'est coupé de Dieu, donc on a la période où on est dans la désespérance, on pleure sur notre corps, parce qu'on dit, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait. Après, on a les pleurs, on a les rires, la période où on a la période des rires. Quand on tombe dans le repos d'esprit, on a la période des rires. Et après, on a la période où on pleure, mais de joie, parce que Jésus est venu nous combler, il est venu nous faire grandir un peu. Donc, voilà. Donc, je raconte l'épisode du désert. J'ai eu la chance de faire la prière gestuée. Après, j'ai eu la chance d'être enseigné au début par par vers l'Inde, après par le père Glotin qui nous enseignait pour la prière gestuée, c'est un prêtre qui a écrit beaucoup de livres sur le cœur de Jésus. Et après, j'ai été aux enseignements, au podium, là-bas, pareil, j'écoutais tous les gars qui venaient parler du cœur de Jésus. Alors je piquais à droite, je piquais à gauche, mais jamais personne ne me racontait tout d'un coup. Alors moi, j'écoutais Pierre, j'écoutais Paul, et un jour j'arrive à dire, Jésus, je disais à des gens qui étaient chez moi, je leur disais, mais Jésus, Jésus, parce que pareil, c'est un haut lieu de guérison. Pareil, c'est le lieu de guérison lourde. Les gens, ils repartent sans béquille. Pareil, c'est le lieu de guérison des blessures qu'on ne voit pas. Parce que quand la personne est blessée, je ne sais pas à quel âge, moi ça a été à 7 ans, pour d'autres c'était quand ils étaient dans le ventre de leur maman, d'autres c'était, je ne sais pas, mais les gens quand ils sont blessés, ils se replient, se coupent de Dieu. Bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi je disais en rigolant, Jésus, un jour à table je dis, Jésus, il a un laser, il fait sauter les blindages. Quand vous êtes blessé, vous mettez des coffres forts devant leur cœur et Jésus, il a un laser, il fait sauter les blindages. Alors, il y avait un espèce de grand syndicaliste qui était chez moi, il dit, Francesco, tu dis des conneries, je ne sais pas si je reviendrai chez toi. Et on va au podium, il y avait le curé de la miséricorde, il était sur la scène, comme ça, il disait, Jésus, Jésus, il a un marteau, il fait sauter les carapaces. Donc je ne m'étais pas trop trompé, et en allant en Argentine, je vois une petite mystique Fabiana qui est morte à 36 ans, où Jésus lui dit, les gens ont mis des coffres forts devant leur cœur, donc je ne m'étais pas trop trompé. Après, donc pareil, c'est un haut lieu de guérison. C'est le lieu où on vient guérir toutes les blessures. Et l'évêque d'Avignon, c'est un grand passionné de pareil, il monte avec des groupes, hein, il leur fait. Mais on n'a jamais un prêtre qui va vous faire un enseignement complet sur le message de pareil, le vrai message. Le message de pareil, c'est Jésus, le cœur aimant, pour apprendre à aimer. Si vous aimez avec Jésus, et vous mettez les sacrements qu'il faut en place, j'ai dit, il vous apprend à aimer. C'est le message aimant. Cracovie, c'est le message aimant, mais miséricordieux. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est bien important, qui est beau, mais à Cracovie, il apprend à aimer le plus petit, le plus cassé. Le plus cassé. Aimer le plus cassé, aimer le plus pauvre. Donc, à force d'écouter toutes ces conférences et tout, et après j'ai été en Argentine, où là-bas c'est Jésus, le cœur aimant, Eucharistie. Pour être heureux, il faut donner sa vie. Qui veut garder sa vie, la perd, qui la donne, la gagne. Donc c'est en donnant sa vie, c'est le troisième message du cœur. À mon avis, Salta, c'est le troisième message du cœur. Jésus, Eucharistie, qui se donne pour sauver le monde, quoi. Comme nous-mêmes, il faut mourir sur la croix pour se sauver, ben, il faut savoir mourir à soi-même pour donner sa vie, pour sauver l'autre. Voilà, les trois messages du cœur qu'on peut avoir dans le monde. Le troisième, il est encore moins connu, mais on en parle. Hein, mais c'est à Salta où il y a des foules énormes qui viennent. Hein, c'est un Medjugorje là-bas. Hein, c'est... Voilà, donc à travers tous ces enseignements, ben, petit à petit, je commence à grandir un peu. Puis on devient un peu les enfants gâtés du bon Dieu, donc on va à la messe, on se prend pas trop la tête et on croit qu'on n'avance plus. On est quelque chose qui coince là encore. Ça. Parce qu'on devient des enfants gâtés, on mange bien, on est bien nourri, il nous a donné les grandes bases, on est comme ces familles chrétiennes qui ils se suffisent à eux-mêmes parce qu'ils ont une belle famille, ils ont fait des beaux enfants, mais la télé vient tout pourrir, Internet. Et puis je me suis aperçu qu'à pareil, il y avait trois clans de chrétiens. Il y avait le chrétien d'Emmanuel, les chrétiens de la cure, et puis les sans clampins comme moi qui arrivaient parce qu'ils avaient eu une grâce à pareil, puis qui voulaient être là, quoi. Et un jour, il y a quand même eu l'adoration qui est venue à pareil, donc les chrétiens ont commencé à se parler un peu. L'adoration a fait qu'il n'y avait plus trois clans, ça commençait à se parler un peu. Mais il reste encore qu'il y a... C'est pas des vrais chrétiens, quoi. Parce qu'un chrétien, je suppose, je sais pas moi, il manquait encore quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, c'est que la société est tombée malade, des familles qui tombent dans l'orgueil, mais le bon Dieu les prépare pour les temps derniers, j'ai l'impression que l'année dernière, ils ont tous eu une calotte derrière la tête, et ils marchent droit maintenant, ils sont moins orgueilleux. Mais cette année, je me suis aperçu que c'était certains prêtres qui étaient comme ça, Et Dieu va leur donner avant l'avertissement pour qu'ils soient dans le à l'image du vrai chrétien, quoi. Ce matin, la parabole, elle était superbe, la parabole de ce matin, hein, de l'évangile, c'était le pauvre, on donne le siège à celui qui est bien habillé, et puis l'autre, c'est quoi? C'est... Voilà, c'est... Dieu, qu'est-ce qu'il veut de ses enfants? Pourquoi moi je disais toujours, je suis le petit Francesco, le pas costaud? Mais un petit pas costaud, associé à Jésus, je peux vous dire que ça fait... Il peut faire du bon boulot, hein. Donc, Jésus, il veut qu'on se fasse petit. Un jour, j'étais au cimetière à la Toussaint, de Paray-le-Monial, et je tombe sur une personne qui cherchait le carré de l'Emmanuel. J'en ai, on devait le faire voir où c'était. Alors je dis, bah, c'est bien, suivez-moi, je vous emmène. Je vous emmène voir le carré de l'Emmanuel. Et le gars, je le vois, il me dit, oh, mais tu sais, moi, je suis à la retraite, je travaille pour des moines dans un monastère, je leur répare tout, mais je ne suis pas croyant. Je le regarde. Je dis, ouais, c'est vrai, mais vous avez un problème. Moi, un problème? Il avait tellement de talents, j'avais tellement vu qu'il avait des talents, ce gars-là. Je dis, celui-là, il n'a même pas besoin du bon Dieu tellement il a des talents. Je dis, oui, votre problème, c'est que vous avez trop de talents. Quand on a trop de talents, on n'a pas besoin du bon Dieu. Moi, mes frères, les costauds, ils ont fait toute leur vie sans Dieu. Mais bon, il y a mes sœurs qui commencent à revenir. Les plus belles, elles commencent à revenir à Jésus maintenant. Parce qu'ils voient la sœur handicapée qui ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Puis qui dit, oh, mais je suis heureuse, hein. Elle est consacrée. Elle peut plus, elle est énorme, elle ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Mais je suis heureuse. Hein. Alors, celles qui étaient belles, qui avaient tout, tant qu'elles étaient jeunes, elles ont pu des beaux enfants, des beaux maris, ça marche bien. Mais la moindre petite douleur, maintenant, ça pleurniche, quoi. Et l'autre, elle en a eu toute sa vie, alors les douleurs, elle les donne à Jésus, elle sait plus ce que c'est. La douleur, on est habitué, la douleur, c'est rien. C'est la solitude. Mais elle n'aurait pas des chrétiens autour d'elle pour l'aider, eh ben, je peux vous dire que je ne serais pas clair. Hein. Parce qu'elle avait un caractère un peu dur avant, maintenant ça s'agit en vieillissant, mais c'était ses blessures, elle a eu 23 opérations. Moi, à 2-3 déjà je serais mort, parce que j'étais donc stocké.
Alors tu ne peux pas nous dire la différence entre le cœur d'amour, le cœur de miséricorde et le cœur eucharistique.
Si, le cœur d'amour, c'est-à-dire que Dieu, pour construire quelque chose, attendez. Voilà, le cœur d'amour, c'est le cœur, Dieu nous donne un cœur d'amour pour pouvoir construire selon ses règles à lui, c'est-à-dire aimer avec le cœur. Tout, si on avait une devise à mettre, ce serait mettez le cœur en premier, c'est-à-dire mettez Dieu en premier. Hein, le cœur d'abord, en premier. Parce que souvent, celui qui n'a pas Dieu, il va dire moi d'abord je vais gagner des sous, je vais être riche et après je trouverai une femme et après, il a tout faux celui-là, il n'a pas mis le tiercé dans l'ordre. Le tiercé dans l'ordre, c'est Dieu, la famille et le travail. Parce que je vais vous dire que si vous tombez amoureux d'une belle, un jeune homme, il va tomber amoureux d'une belle jeune fille, il va construire avec son cœur, ben je peux vous dire que il va, avec les sacrements de l'Église, bien sûr, il va fréquenter, il va faire comme il faut, quoi. Il va pas griller les étapes. Hein. Et ben il construira. Quand il aura des enfants à nourrir, je peux vous dire que son cœur va rendre sa tête intelligente pour nourrir ses enfants. Hein. Bon, après, il y a le cœur miséricordieux, c'est-à-dire d'avoir le regard sur l'autre, le regard de Jésus. D'avoir le regard sur l'autre, de voir l'enfant blessé avant tout, avant de le juger. De ne pas juger l'autre. De ne pas se faire une idée, c'est vrai, le riche on le fait asseoir et puis l'autre on le laisse par terre. Le regard de Jésus, c'est le regard de miséricorde, c'est le regard de Jésus sur l'autre, il voit avant tout l'enfant blessé, il ne va pas lui jeter un caillou. Nous, on est dans les mêmes conditions que l'autre, on devient comme l'autre. Moi, celui qui m'a rendu le plus grand service à moi, c'est celui qui m'a volé le plus, c'est-à-dire mon propre frère, parce qu'il était accidenté. Et ma mère, aidez-le. Lui, il n'avait pas le bon Dieu, donc ce qu'on lui donnait, il leur distribuait ailleurs, et puis il voulait se faire aimer. Donc il croyait que ça s'achète, l'amour, ça ne s'achète pas. Hein, mais pour dire... Mais il m'a rendu service parce que j'ai dit, mais je disais à mes soeurs, mais t'as vu, il m'a volé tous mes sous. Ma soeur a dit, mais il n'était pas comme ça avant l'accident. Donc c'est ce garçon qui m'a rendu le plus grand service, puisqu'il m'a fait comprendre la miséricorde. Je dis, mais si c'était moi qui étais accidenté, qui m'écrase contre une bagnole, j'aurais pété les câbles pareil. et j'aurais volé mon autre frère. Hein. Donc, c'est lui qui m'a fait comprendre, il m'a rendu le plus grand service, parce que une personne accidentée après va mal se comporter, mais ça peut nous arriver à nous, ça pourrait être nous, cette personne. Donc, Jésus, il faut avoir le regard de Jésus sur l'autre, et pas porter de jugement sur personne, dire, cette personne-là, ça pourrait être nous. Ça pourrait être nous. Voilà. Et il y a le troisième Jésus Eucharistie, c'est-à-dire que qui veut garder sa vie, la perd, qui la donne, la gagne. Hein, il faut mourir sur la croix je vais vous expliquer la croix. La croix, par exemple, comme la graine qui meurt en terre, il faut savoir mourir à soi-même pour porter du fruit. Comme la femme met son enfant au monde, sachant mourir à nous-mêmes pour donner la vie. Voilà. Donc quand elle va faire son enfant, elle ne va plus penser à elle, elle va penser avant à son enfant. Hein? Comme Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, sachant mourir à nous-mêmes, quitter l'habit du vieil homme au cœur de pierre et revêtir la vie nouveau, et il y mettra l'amour, la paix, la joie, il y mettra après la patience. Bon, après, c'est là, on va rentrer, c'est là qu'il faut... On se retrouve après dans la situation des enfants gâtés, et si on ne fait pas oraison, ben on n'avance plus. La seule chose qui peut nous sauver après, ben c'est les sacrements, c'est la messe, c'est les... Si vous faites une belle famille, mais après vous n'avez plus besoin du bon Dieu, parce que vous êtes heureux comme ça, ben les enfants feront mal. Donc nous chrétiens, ben si on veut avancer encore, ben y a que l'oraison et les sacrements qui peuvent nous sauver. Sinon, on n'avance plus. Donc écoutez le Père Patrick qui vous fait ses enseignements et qui vous fera rentrer à la cinquième des morts. Moi je sais que si je ne vais pas à l'adoration, je suis foutu. Voilà. C'est la première fois que je témoigne.
Bravo, Jean-Claude.
Wow.